Dieu notre Père, c'est vers toi que se portent nos regards. Nous désirons avoir des cœurs ouverts pour que la bénédiction d'en haut nous soit donnée par ton Esprit qui seul est capable de nous éclairer, de nous rendre attentifs, non pas à nos paroles personnelles, mais à ta parole, aux choses qu'aujourd'hui tu veux nous enseigner dans ta grâce et dans ton amour. Notre attente est en toi, nos yeux sont sur toi. Donne-nous de savoir retenir ce que tu as à nous dire et de ne pas nous perdre à droite ou à gauche pour l'amour de ton nom. Nous te louons parce qu'il en sera ainsi. Amen. Eh bien, mes amis, dans ce 18 juillet 1988, nous continuons notre thème « Connais-toi toi-même » à la lumière du livre de Job. Je vous ai lu hier soir un texte que nous relirons peut-être avant chacune de nos études, de sorte que, à la fin du camp, vous le saurez certainement par cœur. C'est au chapitre 11 des Romains, cette expression de l'apôtre Paul, « Ô profondeur de la richesse », verset 33 du chapitre 11, « de la sagesse et de la science de Dieu, que ses jugements sont insondables et ses voies incompréhensible, car qui a connu la pensée du Seigneur, ou qui a été son conseiller, qui lui a donné le premier pour qu'il ait à recevoir en retour, c'est de lui, par lui et pour lui que sont toutes choses, à lui la gloire dans tous les siècles. Amen. » Et ce matin, le texte qui nous a été donné dans le Nouveau Testament, c'est justement cette parole de Jésus à Pierre et qui illustre en quelque sorte ce qui s'est déjà passé au temps de Job. Satan dit Jésus, a demandé à vous cribler. Mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point. Ça, je pense que cette parole a été ce qui a pu soutenir l'apôtre Pierre après son reniement. Il ne pensait pas que lui renierait son maître. Et pourtant, il l'a fait avec des imprécations qui valent bien celles de Job à trois reprises. Et pourtant, Pierre avait manifesté une foi réelle dans le Christ, son Sauveur. Et voyez-vous, là, nous avons tout de suite un prends-garde pour nous autres. En 1988, si soudainement, soit par la vague de l'islam, une persécution venait au Canada, comme en Europe, puisque maintenant il y a bientôt plus de mosquées en France que d'églises, et qu'aujourd'hui à Montréal on construit une mosquée de 5000 places, et que ce sont des gens décidés et convaincu. Vous savez, c'est facile de vivre en chrétien aujourd'hui. Mais si tout à coup vous aviez le couteau de l'arabe sur la gorge, et qu'on vous demande de confesser Allah et Mahomet comme prophète, et de renier Jésus-Christ, que feriez-vous? Si nous ne sommes pas dans l'amour pour Jésus, si nous n'avons qu'une idéologie en fait de christianisme, et non pas une personne vivante qui nous habite, devant le couteau, nous pourrions flancher. Pourtant, il est dit, sois fidèle jusqu'à la mort. Et ne pensez pas que, à ce moment-là, alors Dieu vous donnerait une force extraordinaire, une grâce spéciale, si au cours de votre vie quotidienne, vous devez constater que vos reniements sont sans nom, vos petits reniements concernant la parole. Ne pensez pas alors que ce serait si facile de dire non à certaines choses qu'il vous sera facile de confesser le Seigneur devant la menace de la mort. Et c'est pourquoi, sachant que nous avons peu de temps et que nous ne pouvons pas prétendre que nous n'aurons pas encore des tribulations, je ne dis pas la grande tribulation, nous pensons bien que nous l'éviterons parce que le Seigneur nous prendra auprès de lui, mais que nous devions passer peut-être par le crible d'une tribulation avant même son retour et qui peut se produire même d'ici la fin de l'année, eh bien, nous devons être avertis. Et que celui qui se croit debout prenne garde qu'il ne tombe. On peut se croire debout alors qu'on est déjà tout près de tomber. Si vous ne cultivez pas une relation personnelle avec Dieu, si vous n'avez pas une intimité réelle avec le Seigneur, si votre christianisme, comme je le dis, n'est encore qu'une idéologie pour vous, que vous voulez suivre, vous ne tiendrez pas. Alors, nous vous avertissons dans l'amour. Nous allons continuer d'être à l'école de Jésus, de qui nous voulons vraiment tout apprendre, selon son invitation que j'ai citée dans Matthieu 11, versets 28 à 30. Venez à moi, apprenez de moi. Et nous allons continuer d'étudier le livre de Job et de découvrir ce que cette parole de Dieu a à nous dire sur ce thème qui vous a été annoncé, connais-toi toi-même. Avec Pierre, nous croyons que la parole est vivante et permanente, comme il le dit dans sa première épître. Avec Paul, nous sommes assurés que toute l'Écriture est inspirée de Dieu, comme il le dit dans 2 Timothée, chapitre 3, versets 16 à 17, et que cette parole est utile pour enseigner, et nous avons besoin d'un enseignement solide, pour nous convaincre, nous avons besoin de conviction aujourd'hui, et non pas partager certaines opinions. Et nous avons besoin d'être corrigés, parce que nous avons une foule de pensées erronées au sujet de bien des choses. Et il nous faut vraiment nous laisser réformer. Et cette parole, nous dit encore l'apôtre, elle est utile pour instruire dans la justice, dans ce que Dieu considère comme étant la justice, afin que nous autres, qui nous réclamons du Dieu vivant, et de son Fils Jésus-Christ, nous soyons accomplis et propres pour toutes les bonnes œuvres qu'il a préparées d'avance pour que nous les mettions en pratique. Un chrétien ne cherche pas quelles bonnes œuvres il a à faire, mais il a un discernement spirituel qui lui montre quelles sont les œuvres que Dieu a préparées pour lui, et il ne s'attaque pas à des œuvres trop grandes. Il ne dépasse pas sa mesure de foi. C'est une terrible tentation de vouloir dépasser sa mesure. Et nous tombons dans l'orgueil, même en ayant les meilleures dispositions pour le Seigneur et les meilleures intentions. Il y a une foule de chrétiens qui ont connu l'échec, étant pourtant partis avec les meilleures intentions. Alors, est-ce que c'est la faute de Dieu ou est-ce que c'est notre faute? On ne se connaissait pas soi-même, on ne connaissait pas ses limites, et on a dépassé la mesure. Alors, hier, nous nous sommes donc penchés sur les deux premiers chapitres qui sont écrits, comme vous l'avez constaté, en les lisant en prose, et qui forment donc le prologue du livre. Et dès ce matin, nous allons aborder la partie écrite en vers, et qui se continue jusqu'à quel chapitre? Vous n'êtes pas censé encore le savoir, mais je pense que vous avez peut-être quand même feuilleté, et que vous aurez vu qu'il continue en prose, donc c'est écrit jusqu'au chapitre 41. Et c'est l'épilogue qui se termine en prose. Donc, en vers jusqu'au chapitre 41, et de nouveau en prose. Alors, je ne reviens pas sur les grands principes qui nous guideront au cours de ces journées à l'école du maître, qui est le maître des maîtres, et dont l'enseignement est toujours progressif. Nous avons eu l'occasion de souligner cela spécialement dans le camp familial. L'enseignement de Jésus était progressif. Il ne disait pas tout à la fois. Il allait en progressant. Et même, il y a des choses qu'il ne disait pas. Il disait, j'aurai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous n'êtes pas capable de les supporter maintenant. Quand le Saint-Esprit sera venu, alors il vous conduira dans toute la vérité. Et il avait averti que si les disciples ne comprenaient pas et ne croyaient pas les choses terrestres dont il leur parlait, eh bien, comment croiraient-ils quand il leur parlerait des choses célestes? Et au fond, Jésus n'a guère pu parler à ses disciples des choses célestes pendant qu'il était sur la terre. Ils ne croyaient pas même aux paroles du Christ quand il leur enseignait des choses terrestres. Eh bien, souvent, ils ne comprenaient rien à ce que Jésus leur avait dit. Alors, il ne pouvait pas leur révéler des choses célestes, ce qu'il a fait après la descente du Saint-Esprit à la Pentecôte et par le moyen de ses apôtres et des hommes qu'il a choisis pour faire connaître sa volonté, tel l'apôtre Paul qui a été l'instrument qui a complété ce qu'on appelle les Écritures, la révélation que Dieu a voulu nous donner et qui se termine par l'Apocalypse de Saint Jean qui a été écrit vers la fin du 1er siècle. Mais avant d'aborder le chapitre 3, qui nous montre la première réaction de Job face à trois amis venus pour le plaindre, pour le consoler, et qui depuis 7 jours et 7 nuits sont là à le regarder sans lui dire une parole. Vous l'avez lu, cela. Mettez-vous dans la peau de Job, qui vient de passer par toutes ces tribulations, qui a connu ses amis alors qu'il était à l'aise, qu'il était en pleine santé, honoré de tous, comme un roi, père de famille heureux, et le voilà maintenant dépouillé sur la cendre que vous voyez là, en quelque sorte. Et ses amis sympathiques qui ont voulu se déplacer sont tellement effrayés de voir dans quel état, dans quelle misère se trouve leur ancien ami qu'ils n'ont pas une parole à lui dire. Peut-être vous direz qu'ils ont eu du tact, je le veux bien, mais quand même, rester 7 jours et 7 nuits sans avoir une parole à dire à un homme qui est dans la souffrance, ça nous pose une question. Et nous, quand nous sommes en face de quelqu'un qui passe par l'épreuve, quelle est notre attitude? Nous restons simplement silencieux, tout en regardant? Ou bien est-ce que notre être tout entier n'est qu'une prière et que nous disons, Seigneur, toi parle, que je sois un canal, mais dis-lui au moins une de ces paroles de grâce, une parole qui soit esprit et vie, Dis-lui une parole qui soit une bouée pour lui. Alors que peut-être que par mes propres paroles, eh bien, je mettrai un fardeau sur lui comme ma main sur la tête de quelqu'un qui est en train de se noyer. Et c'est un peu malheureusement ce que ses amis ont fait. Et c'est ce que nous faisons si souvent. Quand nous voulons consoler, quand nous voulons panser une plaie, nous ne faisons que agrandir la plaie, nous la faisons saigner davantage. Et nous risquons même de l'infecter. Alors avant d'aller plus loin, comme je vous l'ai dit, parce que quelqu'un m'a dit, alors on devra attendre jusqu'à la fin du camp pour poser des questions. Non. Je vous ai dit que nous avons maintenant un moment pour vos questions. Mais des questions qui concernent ce que vous n'auriez pas compris dans le chapitre 1 et le chapitre 2. Parce que nous n'allons pas nous égarer. Est-ce que vous avez des questions? Quelque chose qui n'a pas été bien saisi sur ces deux chapitres? Alors?
Je me demande pourquoi cette Seigneur dit elle est perdue sans cause. Pourquoi est-ce qu'il dit ça? Il l'a écrit, c'est de perdre les hommes ou quoi?
Qu'est-ce que tu penses? T'as prié là-dessus?
Non, je ne prie pas.
Ben alors, tu prieras, hein, d'abord. Parce que le Seigneur peut très bien te répondre. Parce que vous voyez, je ne voudrais pas qu'il y ait parmi vous des gens qui ont la maladie des questions. Je ne dis pas que tu l'as, Larry. C'est pas ça. Je vous ai dit que si vous aviez quelque chose que vous n'aviez pas compris. Alors, tu parles du verset 3. L'Éternel dit à Satan, d'où viens-tu? Et Satan répondit, de courir ça et là sur la terre et de se promener. Il se répète, hein, c'est un vrai disque. Et l'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. Donc, c'est Dieu qui parle. Hein? C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu, se détournant du mal. Il demeure ferme dans son intégrité et tu m'excites à le perdre sans motif. Donc, Dieu souligne que Satan a essayé de faire du mal à Job. Et Dieu, pour donner à Job l'occasion de se justifier, a laissé Satan agir. Mais Dieu dit bien que ce serait le perdre sans cause. Satan est un meurtrier dès le commencement. Il n'y a pas de cause pour la perte de Job. Et pourtant, c'est ce que Satan voudrait, parce qu'il est meurtrier. Et tu as essayé de m'exciter, moi, le Dieu vivant, à perdre une de mes créatures sans cause. Tu comprends? Vous comprenez? Alors, quand vous n'avez pas compris tout de suite une parole, vous la relisez une seconde fois, puis vous dites au Seigneur, mais éclaire-moi, Seigneur. Montre-moi ce qui m'échappe. Alors, vous remettez cela dans son contexte. C'est pas que Job peut être perdu, mais Satan voudrait qu'il soit perdu. Comme il voudrait que vous soyez tous perdus. Mais croyez-le bien, le salut est universel et Dieu, le Créateur, qui a donné à l'homme un libre choix quand il l'a créé, eh bien, il avait couvert le risque du libre choix par le plan de la rédemption. De sorte qu'au cas où l'homme faisait le mauvais choix, celui de la connaissance du bien et du mal dans l'indépendance de Dieu, l'homme voulant lui-même décider ce qui est bien et ce qui est mal, en dehors de la communion avec Dieu, eh bien, Dieu, dans sa grâce, n'a pas été battu par le mauvais choix de l'homme, et rien de sa volonté première de conduire l'homme à sa gloire n'a été changé, c'est toujours son but. Il a créé l'homme pour le bonheur, il l'a créé pour la gloire éternelle, mais maintenant, si l'homme a pris le mauvais chemin, eh bien, il parviendra quand même à la gloire éternelle, mais par un chemin beaucoup plus long, et après des expériences extrêmement douloureuses, qui sont les conséquences de son choix. Ce n'est pas Dieu qui voulait cette vie-là pour l'homme. Si l'homme était resté dans la communion avec Dieu, il aurait continué à tout recevoir de lui, et il ne connaîtrait ni la souffrance, ni la mort, ni les humiliations du sépulcre. Mais Dieu, dans sa grâce, qui nous avait prédestinés à la gloire éternelle, tient sa promesse, et par l'œuvre de la rédemption, un jour, nous serons semblables au Christ, qui nous a tant aimés, et qui est venu réparer la faute du premier Adam, lui, le second Adam. De sorte que vous ne devez pas croire, comme on vous le dit souvent dans l'évangélisation, que le jour où vous avez pris votre décision pour le Seigneur, c'est à ce moment-là que vos noms ont été écrits dans le livre de vie. Comme si cette décision venait de vous. Jésus l'a dit à ses disciples, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi. Et votre nom, contrairement à ce que vous avez pu entendre dans certaines prédications, n'est pas écrit dans le livre de vie au moment de votre décision, qui ne peut être quelquefois qu'une décision charnelle, une décision momentanée, prise dans l'euphorie, dans le moment d'émotion, de musique, de tout ce qu'on fait, enfin rendant au fond une réunion d'évangélisation davantage un show qu'une véritable rencontre, un face-à-face avec le Dieu vivant où l'on s'écroule et où l'on voit sa misère. Voyez-vous, ces réunions où l'on s'exalte de plus en plus, elles me font plutôt peur, parce que quand c'est la parole de Dieu qui vous pénètre, elle ne vous donne pas d'abord de la joie, elle vous met du trouble dans le cœur. Elle vous démolit peut-être, elle vous irrite, mais elle pénètre. Tandis que quand on reçoit immédiatement la parole avec joie, bien souvent la terre est peu profonde, comme l'a enseigné Jésus, et comme il n'y a pas de racines, quand la première épreuve est là, que le soleil est là, eh bien, elle est brûlée et ça ne dure pas. C'est pourquoi on a souvent dit qu'une conversion, elle vaut vraiment ce qu'elle coûte. Et tous ces hommes de la Bible nous montrent que c'est dans une rencontre personnelle qu'ils ont eue avec le Seigneur et qu'ils se sont effondrés et qu'ils se sont vus perdus. Ce n'est pas le prédicateur qui peut vraiment amener les hommes à la repentance. La repentance est une chose qui est donnée par l'Esprit de Dieu, comme aussi la foi au Seigneur Jésus. La repentance m'amène à reconnaître que c'est vrai ce que Dieu dit, de mon état incurable, que je suis mauvais, non pas parce que je pèche, mais parce que j'ai une nature pécheresse que j'ai héritée. Mais Dieu me dit, mais je ne te condamne pas parce que tu as cette nature. Je t'offre une nouvelle nature. Et cette nouvelle nature, je te l'offre en Jésus-Christ, mon Fils, qui deviendra ta nature. Et c'est lui qui va réaliser le christianisme en toi, car nous demander à nous de réaliser la vie du Christ par nos efforts, eh bien, c'est une demande impossible. Parce que la chair, nous, n'est pas capable. La chair est la chair. Seul l'Esprit de Dieu peut réaliser la vie chrétienne en chacun de nous. Est-ce qu'il y avait une autre question? Alors, ce que je voulais dire encore, c'est que nos noms ont été écrits dans le livre de vie quand? Dès avant la fondation du monde. Dès avant la fondation du monde. La seule chose qui puisse arriver, c'est que votre nom soit effacé du livre de vie. Et le nom effacé du livre de vie, ce n'est pas la perte de votre salut. Nous avons tous été sauvés par l'œuvre du Christ. Si par l'œuvre d'un seul homme, tous sont devenus pécheurs, par l'œuvre d'un seul, tous ont été rendus justes. Le sang du Christ a été versé pour être la propitiation non seulement de nos péchés, mais de ceux du monde entier. De sorte que le salut vous est offert. Mais il arrive un moment où si vous rejetez la grâce, si vous foulez aux pieds le Fils de Dieu, si vous estimez profane le sang de l'Alliance par lequel vous avez été sanctifié, si vous outragez l'Esprit de sa grâce qui vous sollicite jour après jour à lui donner votre vie, alors la patience de Dieu a un terme et il peut effacer votre nom. Et c'est ça la perdition. Ce n'est pas des gens qui ont perdu le salut qu'ils avaient accepté. C'est des gens qui, au lieu de Dieu, l'œuvre était faite aussi pour eux, mais ils n'en ont jamais voulu. C'est comme le refus de la grâce quand il y avait la peine de mort. Si un détenu refusait la grâce, il pouvait alors, il n'avait plus qu'à attendre l'exécution. Comprenez-le bien, Dieu n'est pas injuste. Et ce qui est tellement merveilleux, c'est d'apprendre justement au jour où on se convertit, où on se décide pour Jésus, qu'au fond, on était élu. Dès avant la fondation du monde. Et c'est comme ça que travaillait saint Paul. Il disait, je souffre tout pour l'amour des élus. C'est pas lui qui faisait les élus. Mais Dieu avait des élus. Et Paul souffrait tout pour que ses élus arrivent à la connaissance du salut. Car cette connaissance du salut nous donne vraiment le bonheur. Je passe à notre chapitre, qui est le chapitre 3. Et vous aurez remarqué qu'il se divise en trois parties. Le verset 1 à 10, nous voyons Job qui maudit sa naissance. Du verset 11 à 19, Job exprime le vœu de ne pas être né, puis du verset 20 à 26, il va plus loin. Qu'est-ce qu'il demande? La mort. Hein? Vous voyez la gradation. D'abord, il maudit sa naissance, puis il exprime le vœu de ne pas être né, et enfin, il demande à mourir. Et l'ensemble de ce morceau s'apparente au genre de complainte que nous avons dans l'Ancien Testament. Et je ne vais pas vous faire une étude là-dessus, mais vous pouvez la faire. Il y a plusieurs passages qui peuvent ressembler à cette complainte du livre de Job. Et alors, il ne faudrait pas tomber dans cette critique moderne qui pense que l'auteur sacré de ce livre aurait pris un peu ici, un peu là, chez Jérémie, et puis dans d'autres passages, dans les psaumes, ou dans d'autres livres qui auraient déjà existé pour construire ce chapitre 3. C'est nier l'inspiration de l'Écriture sainte. Dans cette complainte, disons que Job a certainement dépassé la mesure. Gardons-nous d'être sévères pour Job, mais ce que nous pouvons dire, ce n'est pas encore un Job révolté contre Dieu, mais c'est ce que Dieu lui reproche quand il commence à lui parler à partir du chapitre 38e, qui est celui qui, sans connaissance, obscurcit mes desseins. Au fond, Job ne comprend pas le pourquoi de son épreuve, et ce qu'il va dire obscurcit encore le dessein de Dieu. Parce qu'il ne comprend pas. Et alors, quand on veut expliquer ce qu'on ne comprend pas, qu'est-ce qu'on fait? On noircit. On obscurcit les desseins. Les choses que vous ne comprenez pas, n'essayez pas de les expliquer. Comme on n'explique pas un miracle. Ou on le nie, ou on le croit. Mais on n'explique pas un miracle. Ça nous dépasse. Eh bien, Job était complètement dépassé, et soulignons le bien, il n'avait pas le livre de Job pour être encouragé. Et il ne savait pas que Dieu avait dit à Satan jusque-là, mais pas plus loin. Tandis que Pierre, lui, savait que le Seigneur avait prié pour lui. Et quand le Seigneur l'a regardé, sans lui dire une parole, mais l'a regardé, après avoir entendu ces trois reniements, Jésus le regarde après le chant du coq. Sous ce regard, Pierre s'en va, et qu'est-ce qu'il fait? Il pleure amèrement. Il ne va pas se suicider comme Judas, qui meurt dans son péché, parce que c'est un orgueilleux. Mais Pierre se repent et se représente. Après la résurrection, il se représente devant son maître, qui le restaure par trois fois, comme Pierre l'avait renié trois fois. Mais est-ce que nous pouvons tout de suite dire et constater, c'est vraiment l'inefficacité des paroles de Job quand il maudit son jour, le jour de sa naissance. Qu'est-ce que ça lui apporte? Mais avant d'aller plus loin, et peut-être pour aller au-devant des questions que vous n'avez pas encore voulu me poser, je dirais que hier soir, nous avons vraiment fait connaissance avec ce patriarche que certains croient légendaire, alors que nous croyons que Job est un héros qui a réellement vécu. Nous avons fait connaissance avec cet homme, Job, dont tout le monde parle, pauvre comme Job. C'est devenu un proverbe. Et ce que nous avons appris, c'est ce qu'il était dans la vie, on a essayé de le replacer dans son cadre, vie patriarcale, ce qu'il avait, ce qu'il possédait, c'était un homme riche, un homme considéré. Et nous avons vu aussi ce qu'il faisait, et nous avons certainement été édifiés par son caractère extérieur. Et vous avez vu qu'il est dit que Job était un homme irréprochable. Qu'est-ce qui doit être particulièrement irréprochable dans le Nouveau Testament? Oui, Jésus, évidemment qu'il est irréprochable. Mais, dans l'Église, ce sont les anciens. Eh bien, vous voyez que Job avait déjà ce caractère d'ancien. Il était un homme irréprochable. Et, comme nous l'avons souligné, hier, nous pensons qu'il vivait avant la loi, puisqu'il n'est pas question de la loi dans ce livre, avant les commandements qui ont été donnés à un peuple d'Israël, mais et qui n'était pas un descendant nécessairement d'Abraham, mais qu'il était justement ou même s'il était descendant d'Ismaël, peu importe, nous aurons l'occasion de préciser tout cela, puisque nous n'avons pas des assurances formelles, c'est pas cela qui est important. Ce qui est important, c'est que Dieu ait voulu que nous ayons l'histoire de Job. Pas pour que, simplement, nous ayons une belle histoire à raconter aux enfants, mais pour notre instruction et pour nous corriger. Je voudrais seulement souligner que les richesses de Job n'avaient en aucune manière détourné son cœur de Dieu, alors que souvent les richesses détournent notre cœur du Seigneur. Non seulement il prenait garde à sa propre conduite, mais il veillait avec beaucoup de soin à celle de ses enfants. Quand l'occasion se présentait, il offrait à Dieu des holocaustes, selon le nombre de ses enfants, de peur que quelqu'un n'eût péché en secret. Job comprenait donc, dans une certaine mesure, la justice de Dieu, et il voyait que Dieu ne pouvait pas tolérer le péché. Et il avait saisi la signification du sacrifice. Il croyait, comme Abel, que le sang fait expiation pour l'âme, car la mort, il l'avait bien compris, était les gages du péché. Nous avons montré qu'au début de la création, après la chute, il y a eu des traditions qui se sont maintenues, et nous voyons que des hommes, au sein du paganisme, étaient restés fidèles à leur Dieu dans ce temps où le péché n'était pas mis en compte, où Dieu supportait certaines choses, mais il y avait pourtant un résidu des hommes qui comprenaient. Et ce qui est merveilleux, c'est de penser justement que Job n'était pas un juif. Je me souviens toujours à Jérusalem d'une conférence que j'avais faite en plein Jérusalem, en l'annonçant, un arabe pas comme les autres. Tout le monde se creusait la tête pour savoir de quoi j'allais parler. Et c'était de Job. Car Job n'était pas un juif. Et ça vous montre que le message de Job est un message universel. C'est un salut universel, celui que Dieu veut. Il n'y a rien de sectaire. Dieu a tant aimé le monde. Et le livre de Job nous montre cet amour pour le monde. Donc au pays des hommes sans Bible, et avant la proclamation de la loi de Moïse, Job voyait clairement ce qu'était la justice de Dieu. Il savait se détourner du mal. Mais ce qu'il ne connaissait pas encore, c'est la grâce de Dieu. Et c'est là que nous avons discerné qu'il ne se connaissait pas lui-même. Il n'avait pas encore la conviction que la nature humaine en elle-même est totalement dépravée et perdue. Sa propre justice lui empêchait de comprendre cette vérité. Il était tellement droit, il était tellement juste, il craignait tellement Dieu, et il était si conscient de marcher dans le sentier de la vertu, qu'il ne pensait pas qu'il pourrait lui arriver à un moment donné de douter d'une manière ou d'une autre de son Créateur, du Dieu vivant. Job était au fond le type de l'homme religieux par excellence, d'un saint homme qui n'aurait pas pu comprendre que le portrait de son intérieur se trouvait peut-être dans ce chapitre d'Ésaïe, au chapitre premier, où il est dit ceci, parlant d'Israël, la tête entière est malade et tout le cœur est souffrant. De la plante du pied jusqu'à la tête, rien n'est en bon état. Ce ne sont que blessures, contusions et plaies vives qui n'ont été ni pansées, ni bandées, ni adoucies par l'huile. Et qu'est-ce qui allait lui révéler son intérieur, puisque l'extérieur était si merveilleux, ce qui allait lui révéler son intérieur, qui est semblable à cette description d'Ésaïe, c'était les épreuves par lesquelles il passait. Et si on lui avait dit avant, quand il était dans les anges, qu'il allait maudire son jour, qu'il allait dire des choses pareilles, il ne l'aurait pas cru. Parce que voyez-vous, on est aveugle sur soi. Souvenez-vous de David, je prends cet exemple. Un jour, David, aveuglé par la puissance du diable, ne voyait pas son propre péché. Il avait couché avec la femme d'un autre. Comme elle était enceinte, il avait fait tuer son mari par main interposée. Et finalement, pour couronner le tout, pour que ce soit bien pour le peuple, le bon roi David épouse cette pauvre veuve. Personne ne savait rien. Le camouflage était parfait. Mais Dieu voyait. Et ce que David avait fait était une abomination à l'Éternel. Même ce David qui avait écrit de très beaux psaumes pendant qu'il marchait avec le Seigneur. Voilà à quoi il en arrive. Et alors Nathan, le prophète, vient, lui raconte une petite parabole que vous connaissez. Je ne veux pas vous prendre pour des enfants d'école du dimanche, mais vous connaissez certainement la parabole de l'homme riche qui arrive chez un pauvre et qui lui dit qu'il a reçu un invité et qui prend la seule brebis de cet homme pauvre pour la prêter pour l'homme riche. Alors David, à qui l'on rapporte la chose, donc, par Nathan, dit « L'homme qui a fait cela mérite la mort. » Et qu'est-ce que Nathan lui dit ? Tue cet homme. Hein. Mais vous voyez comment on peut être aveuglé. On peut très bien juger le péché des autres. Mais quant à reconnaître notre propre faute, on est comme aveugle. Job n'avait pas péché comme David, mais il avait au fond la même nature. Une nature rebelle et méchante. Et c'est ça qui doit sortir de nos cœurs. Et j'espère que vous le comprendrez, vous allez dire, bah alors, ça ne vaut pas la peine qu'on reste jusqu'à la fin du camp. Si tout votre camp va simplement nous montrer que nous sommes des méchants. Mais ce n'est pas mon but. Mais c'est pour exalter la puissance du Seigneur qui ne veut pas que vous restiez, que nous restions des méchants, mais que nous soyons des hommes et des femmes transformés. Non pas pour que nous puissions nous glorifier de quelque chose, mais que toute notre vie parle de la gloire de Dieu, comme ces arbres, comme toute la nature, comme vous le chantez si souvent, qui parle d'un Créateur. Que votre vie quotidienne, là où vous vous trouvez, parle d'un Créateur. Pas simplement une mission évangélique où l'on se met un peu en avant, on se met au travail et on force quelquefois la dose. Et après, on dit, heureusement que ça finit, parce qu'on n'en pouvait plus. Ces efforts qui, si souvent, avec les meilleures intentions, risquent d'être charnels, coûtent très cher, alors que vos vies sont la puissance d'évangélisation du monde. Comme les petits-enfants et ceux qui sont à la mamelle encore, se trouvent être la force de Dieu. Voilà pourquoi Satan fait tout son possible pour détruire la famille, pour qu'il n'y ait plus d'enfants. Ces petits qui louent le Seigneur dans leur langage incompréhensible, c'est une louange pour Dieu. Alors que les hommes, quand ils savent parler, deviennent des blasphémateurs, des outrageux. Eh bien, on voudrait même enlever les enfants. Alors c'est l'avortement et tout ce que vous voulez. Cela, ça vient du meurtrier de Satan qui voudrait détruire. Comment est-ce que Dieu va apprendre à Job, à cet homme que Dieu lui-même reconnaît comme parfait, droit, craignant Dieu et sortirant du mal quant à l'extérieur? Comment va-t-il lui apprendre ce qu'il est pour lui donner le double, parce que Dieu ne nous éprouve jamais pour nous enlever quelque chose. Mais quelquefois, pour nous donner le double, il doit d'abord nous dépouiller. Et c'est ce qui s'est produit. Pour Paul, il n'a pas eu besoin d'agir de cette manière-là. Saul de Tarse lui dit, dans le chapitre 3 des Philippiens, que je voudrais que vous compariez, eh bien, Paul dit que tout ce qui était pour lui des avantages selon la chair, et il les cite, ces avantages. Il les a considérés comme une perte à cause du Christ, et que même il regarde ces choses comme des ordures. Or, vous verrez que Job ne regardait pas ces avantages qu'il avait eus dans son existence comme des ordures. Au chapitre 29, si nous y arrivons, nous verrons qu'il se complaisait quand même dans cette vie de bénédiction que Dieu lui avait donnée. Et hier, j'ai essayé de vous montrer que si nos bénédictions ne sont pas des bénédictions terrestres, comme ce fut le cas pour Job, mais des bénédictions célestes, nous avons des bénédictions célestes, nous les avons toutes. Nous sommes bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. De sorte que, conscients de cela, nous devrions pouvoir traverser les épreuves en restant dans la paix. Et voilà ce que le Seigneur voudrait. Que nous ne soyons pas tout de suite perdus, des chrétiens sauvés qui ont l'air d'être perdus. C'est vrai ou c'est faux? Notre témoignage, qu'est-ce qu'il est? Mais prenez conscience des choses célestes, de vos bénédictions célestes. Vous les avez toutes. Rien ne vous manque. Saisissez cette vie éternelle dont vous parlez aux autres. Vivez de cette vie éternelle. Mais si quelque chose de bien se manifeste dans vous, ne vous glorifiez pas. Quand on est avec Jésus et en Jésus, toute gloire par la puissance du Saint-Esprit lui revient. Non point à nous, non point à nous, mais à ton nom donne gloire. L'homme s'efface, le moi est crucifié, et le Christ est vivant et au centre. Comment Dieu va-t-il s'y prendre? Pour Paul, Paul a compris lui-même. Alors il fait la perte de tout. Et il peut dire après, mais j'ai appris à être content dans la situation où je me trouve. Je sais être dans l'abondance. Job avait su être dans l'abondance. Mais il semble n'avoir pas très bien su être dans la pauvreté. Dans la misère. On sait être dans la santé, mais est-ce qu'on saura être dans la maladie, dans l'épreuve, en s'en remettant éperdument à Dieu, ou bien est-ce que tout de suite nous allons dire pourquoi? C'est ce qui nous arrive si souvent, quand l'épreuve est là. Alors, nous devons discerner ce que Dieu fait, ce que Dieu permet et ce qu'il veut. Dans ces chapitres encore, nous avons eu un dévoilement, quelque sorte, de ce qui se passe dans les lieux célestes. Et nous avons vu que Satan lui-même, et là nous aurions pu faire toute une étude sur Satan, car dans ces deux chapitres, nous recevons pas mal de lumière au sujet de Satan. C'est très frappant. Ce Satan que vous voyez dans le jardin d'Éden, comme le serpent, vous le voyez ici comme un fils de Dieu, comme une créature céleste, mais qui s'est dévoyée, mais, et qui, étant une créature, qui a voulu se révolter contre Dieu, n'a pas été anéanti, mais est encore au service de son créateur, mais si vous le voulez, je l'appellerai l'accusateur public. Car c'est bien ainsi que le dernier livre de l'Apocalypse nous montre Satan, serpent ancien, accusateur des frères. Celui qui rôde autour de l'Église, qui rôde autour de nos foyers, qui rôde autour de nos vies, cherchant qu'il pourra dévorer, comme l'a dit Pierre. Et alors, ce que je trouve merveilleux, est-ce que Satan a réussi avec Job? Est-ce qu'il a pu le détruire? Non. Et après le chapitre 2, vous n'entendez plus parler de Satan. C'est fini. Hein? Satan a échoué complètement. Pourquoi? Parce que Dieu est le maître. Il l'a employé, oui, mais jusque-là, mais pas plus loin. Et alors, ce qui vous aura frappé, c'est que Job a passé donc par cette épreuve. Il a perdu ses biens. En trois fois. Puis, il a perdu quoi? Ses enfants. Voilà une quatrième épreuve. Puis, la cinquième, il a perdu sa santé. Dans la deuxième offensive de Satan, il perd sa santé, mais là encore, il reste ferme, il accepte. Puis, la sixième épreuve, elle lui vient de la perte de l'appui de qui? De sa femme, qui lui dit « Maudit Dieu et meurt ». Mais où il sort finalement de ses gonds, c'est dans la septième épreuve. C'est pas par Satan qui perd les pédales, le pauvre Job. C'est par qui? Par ses amis. « Gardez-moi de mes amis, je me charge de mes ennemis ». C'est au fond par ses amis bien intentionnés que Dieu va manifester ce qui est au fond du cœur de Job. Et bien souvent, vous savez, c'est par nos frères et sœurs que bien des choses de nos cœurs nous sont manifestées. Comme je l'ai dit quelquefois dans ce quand même, nous devons être crucifiés avec Christ. Mais est-ce que vous pouvez vous crucifier vous-même? Non. Alors, il faut des sœurs clous et des frères marteaux. Parce que tout ce qu'on arriverait à faire, nous, si on veut se crucifier, c'est de planter un clou, hein, puis après continuer. Vous pouvez peut-être vous crucifier les pieds et les mains. Mais ensuite, vous n'avez plus de main pour mettre le dernier clou. Alors il faut bien un frère ou une sœur. Puis ensuite, pour dresser la croix, il faut peut-être l'Église. Il faut peut-être toute l'Assemblée. Alors, donc, cherchons à croire que le Seigneur n'est pas contre nous. Vous avez lu votre chapitre et vous voyez que là, Job n'en peut plus. Je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de points difficiles dans ce que vous avez lu. La plainte de Job, elle est quand même naturelle. Mais quand il se voit contemplé par des amis qui sont venus certainement bien intentionnés, sont concertés, mais qui n'ont aucun qu'une parole, alors c'est Job qui, au bout de 7 jours et 7 nuits, ouvre la bouche. Et qu'est-ce qu'il maudit dans ses premiers versets? Ben, le jour de sa naissance. Mais c'est extraordinaire, n'est-ce pas? Vous êtes là devant une détresse profonde. Job prit la parole, périsse le jour où je suis né. Est-ce qu'on devrait maudire le jour de sa naissance? Non, on devrait le bénir. Bénissez le jour de votre naissance. Puis la nuit qui dit un mal a été conçu. Parce qu'habituellement, nous disons autrefois, un enfant était conçu plutôt la nuit. Que ce jour soit donc ténèbre. Que Dieu n'en ait pas souci là-haut. Mais comment peut-on dire des choses pareilles? Mais voilà, on est capable d'en arriver là dans la détresse. Comment dire que Dieu n'en ait pas souci là-haut? Si vous lisez le psaume 139, qu'est-ce que vous apprenez? Qui est-ce qui a ouvert la matrice? C'est Dieu. Qui a vu notre substance informe dans le sein maternel? C'est Dieu qui nous suivait du regard. Et il est dit que quand nous étions dans le sein maternel, Dieu écrivait dans son livre tous les jours qui nous étaient destinés. Alors comment voulez-vous que nous disions à Dieu, ne t'occupe plus de moi? Comme si on ne pouvait plus supporter ce fardeau de la vie. Alors on voit que Job, là, n'est pas réellement dans la communion du Seigneur. L'épreuve obscurcit son intelligence. Il voudrait que la lumière ne brille plus sur lui. Pourquoi? Parce que quand la lumière brille sur lui, qu'est-ce qu'on voit? On voit sa peau purulente, on voit cette maladie qui l'affecte si terriblement. On le voit se gratter, se démanger. C'est pas bon l'homme qui se gratte. Je sais bien, quand je me gratte, ma femme me reprend. N'est-ce pas? Mais c'est comme cela. Alors, que les ténèbres et l'ombre de la mort le réclament, que les nuées demeurent au-dessus de lui, que les sombres événements l'épouvantent, cette nuit, que l'obscurité s'en empare, qu'elle ne se réjouisse point parmi les jours de l'année, qu'elle n'entre pas dans le compte des mois, alors que tous nos jours sont comptés. Apprends-moi à compter mes jours. Alors vous voyez, Job est en train de dérailler complètement, parce que maintenant il est bloqué par l'épreuve. Oui, que cette nuit soit stérile, parce que qui fait enfanter, encore une fois, qui ouvre le sein maternel, qui fait enfanter, c'est moi, dit l'Éternel. Chapitre 66 d'Ésaïe, verset 11. Donc il n'est pas en contact direct avec le Seigneur, il se sent seul. Il n'a pas pu dire réellement que ta volonté soit faite. Non pas ce que moi je veux, mais ce que toi tu veux. Qu'il n'y ait pas en elle de cri de joie, parce que évidemment à une naissance il y a un cri de joie. Qu'elle soit exécrée par ceux qui maudissent le jour, par ceux qui savent réveiller le Léviathan. Bien, là, vous pourriez poser une question, qu'est-ce que c'est ce Léviathan? Vous allez le retrouver. Et à mesure que nous le retrouverons, nous apprendrons ce qu'est le Léviathan, et peut-être ce que veut dire réveiller le Léviathan, mais il n'y a pas besoin de comprendre tout de suite. On dit, bien, on va attendre un peu plus de lumière, parce que le Seigneur revient. Et ce que nous allons apprendre, c'est que le Léviathan semble être le crocodile ou un monstre marin. Disons-le comme ça en passant. Alors que les étoiles de son crépuscule s'obscurcissent. Il voit donc la vie en rose. Vous connaissez ça? Il voit la vie en noir. Bien voilà, c'est arrivé à Job. Qu'elle espère la lumière sans qu'elle vienne, qu'elle ne voit pas les paupières de l'aurore. C'est tellement beau cette poésie, n'est-ce pas? Les paupières de l'aurore. Quand le soleil se lève, c'est comme les paupières qui s'ouvrent. Et le soleil est comme les yeux. C'est merveilleux. Il y a une poésie admirable, c'est pourquoi même des athées trouvent que le livre de Job est le plus beau livre qu'on puisse trouver. Au point de vue de la poésie et de la manière dont les choses sont dites. Car elle n'a pas fermé le ventre qui me conçut, ni caché la peine à mes regards. Puis alors voilà les pourquoi. Vous pourrez les compter peut-être. C'est pourquoi que nous allons trouver dans le livre de Job. Il y en a deux ici. On arrive donc dans la deuxième partie que je vous signalais. Et au verset 11 qui exprime donc le vœu de ne pas être né. D'abord, la malédiction du jour de sa naissance. Pourquoi ne suis-je pas mort dans les entrailles de ma mère? Parce que, voilà, mort-né. Vous l'avez espéré, ça? Pourquoi n'ai-je pas expiré au sortir du ventre? Un autre, qui s'appelle Jérémie, a dit une chose atroce dans un moment difficile. Qu'est-ce qu'il a dit? Si au moins ma mère était restée éternellement enceinte. Vous rendez-vous compte? Ce qu'on peut dire comme folie. Encore Job, il souhaite d'être mort au sortir de la de sa mère. Mais là, faire le vœu que sa mère soit restée éternellement enceinte. Mais peut-être que c'est pas si faux que ça. On était tellement bien. On était au chaud, on pouvait faire son petit match de foot, tant pis pour le ventre de la mère, n'est-ce pas? Et sortir, mais c'était aller vers l'inconnu. On était nourris, on pouvait se tourner, prendre la position à peu près qu'on voulait. Puis voilà qu'il faut sortir. Mais c'est l'inconnu. Mais c'est comme ça, j'aime illustrer la mort aussi comme cela. Quand nous allons partir, on ne sera pas dans le corps, on quitte son corps. Comme le nouveau-né a quitté le corps de sa mère, eh bien nous allons quitter notre corps. Mais alors, est-ce qu'on sera accueilli? Et bien sûr. Comme l'enfant a été accueilli, s'il a eu des parents qui se réjouissaient de sa naissance, il a été reçu, accueilli, choyé, lavé, langé. Eh bien, quand nous quitterons notre corps, eh bien, on n'est pas enterré dans notre corps. Parce que sans ça, commander tout de suite un cercueil air conditionné. Ou avec téléphone. Tant pis pour Belle. Comme si je me réveille dans mon cercueil, j'ai un téléphone cellulaire. Encore en vie, ils se sont trompés, ces médecins. Ils ont signé le certificat de décès. Péché dans la tombe. Venez, venez, c'est le numéro. Mais il ne sait pas même. Vous savez, la Bible, c'est un livre qui nous parle, qui nous ouvre des horizons. C'est pas ennuyeux de lire la Bible, de la méditer. Alors voyez, ce qu'on peut dire dans la détresse, pourquoi ne suis-je pas mort dès le ventre de ma mère? Pourquoi n'ai-je pas expiré au sortir du ventre? Il est mort. Votre petit est mort. Triste, hein? Pourquoi ai-je trouvé des genoux pour me recevoir? Si au moins je m'étais fracassé la tête, parce qu'il n'y avait personne pour me recevoir. Ça arrive, je connais bien, j'ai une amie à Nazareth, qui était à Nazareth, qui était sage-femme, et des fois, les femmes arabes arrivaient à 5h du matin, puis il y en avait déjà une qui accouchait, et une autre, elle avait déjà laissé tomber un enfant dans l'auto, au fond de l'auto. Puis elle en avait encore un autre, qui venait sur le chariot. Alors, c'est pas drôle, il y a toutes sortes de risques. Et les seins pour m'allaiter. Vous voyez, tout ce qui était bien fait devient, au fond, une malédiction. J'aurais pas dû avoir ça, j'aurais pas dû avoir ça, j'aurais pas dû avoir ça. Mais est-ce que vous aviez béni Dieu pour tout ça que vous aviez eu quand vous étiez dans les jours heureux? Et maintenant, tout cela, vous le reprochez à Dieu. S'il ne vous l'avait pas donné, vous seriez pas content. Puis il vous l'a donné, mais maintenant vous oubliez tous ses bienfaits. Et vous l'accusez en quelque sorte, parce que c'est une accusation indirecte. Il n'accuse pas Dieu, il ne parle pas de Dieu directement, mais maudire son jour, ça atteint qui? Ça atteint le Créateur. Et c'est ce que nous devons bien comprendre. Car maintenant je serai couché, je serai tranquille, je dormirai, alors je pourrai me reposer. Vous voulez du repos? Prenez celui du Seigneur, hein, que nous avons vu hier. Mais il y a tant de personnes qui, dans un moment de découragement, peuvent en arriver là, à aller jusqu'à soupirer après la mort. Ah, si j'étais mort avec les rois, vous voyez où il se met? Parce que lui-même est un homme si considéré, eh bien... Son préarrangement, il est avec les rois. et conseillers de la terre, qui se bâtissent des mausolées. Je me souviens toujours de cette duchesse qui me disait un jour, alors qu'elle était sur son lit de mort, je lui demandais si elle était prête. Oui, oui, je suis prête, j'ai mon tombeau. C'est terrible quand même. Hein. J'ai mon tombeau. Et une autre qui me disait, j'ai fait recrépir tout mon tombeau, parce que je ne veux pas avoir de rhumatisme. Il y avait des infiltrations. Est-ce qu'on peut être fou? N'est-ce pas? Nos préoccupations qui remplissent d'argent leur maison. Nous avons été en Égypte avec ma femme, nous avons vu dans la vallée des rois cet or et cet argent dans les tombeaux. Ou bien alors je n'existerai pas comme un avorton caché. Oui, vous connaissez l'histoire d'avorton. Comme des petits enfants qui n'ont pas vu la lumière. Puis là, les méchants cessent leur agitation. Évidemment, Hitler, il a fini son agitation. Là se reposent ceux qui sont fatigués et sans force. Les prisonniers sont tous dans la tranquillité. Ils n'entendent plus la voix de l'oppresseur. On pense aux camps de concentration. Il y en a qui ont passé par là et qui ont désiré la mort. Le petit et le grand sont là, et l'esclave est affranchi de son seigneur. Puis alors, verset 20, un troisième pourquoi. Pourquoi donne-t-il la lumière à celui qui a de la peine? Vous voyez, là, c'est le désir de mourir dans la fin de ce chapitre. À ceux qui ont de l'amertume dans l'âme, qui attendent la mort sans qu'elle vienne. Il y a eu des prophètes qui ont attendu la mort. Qui a demandé la mort dans un moment de découragement? Élie, le grand prophète. Puis qui encore? Jonas aussi. Qui la convoite plus que des trésors. Qui se réjouirait transporté d'allégresse et de joie s'il trouvait une tombe. C'est là votre espérance? À l'homme dont la route est cachée et que Dieu cerne de toutes parts. Là, il voit bien que c'est quand même avec Dieu qu'il a affaire, puis comme il le dira dans un autre passage, si je vais en avant et n'y est pas en arrière, je ne l'aperçois pas ni à droite ni à gauche. Il est dans la nuit totale. C'est le moment où justement la foi est mise en activité. Car au lieu de pain, surviennent mes soupirs et mes cris se répandent comme l'eau. Tout à coup, il révèle que quelquefois, je pense, dans sa prospérité, il se demandait, est-ce que ça va durer toujours? Vous avez connu ça? Ce qui me fait peur, c'est ce qui m'arrive. Ou ce qui m'avait fait peur, c'est ce qui m'arrive. Parce qu'on voit des malheurs arriver chez les autres. Puis on s'est dit, ça pourrait peut-être m'arriver. Ce que je redoute, ou ce que je redoutais, c'est ce qui m'atteint. Je n'ai ni calme, ni tranquillité, ni repos, c'est le... C'est l'agitation qui survient. Donc vous voyez que nous avons quelque chose à apprendre. Mais qu'est-ce qui a amené cette explosion du cœur de Job, qu'il a peut-être quand même un peu soulagé? C'est quand même de se voir contemplé dans sa misère par ses amis. Et de ne pas savoir ce qu'ils pensent, puisqu'ils ne disent rien. Mais quand vous voyez quelqu'un qui vous regarde et qui est dans le silence, vous vous demandez, mais qu'est-ce qu'il a? Qu'est-ce qu'il pense de moi? Parce que justement, maintenant, il est si misérable qu'il se dit, ils doivent penser toute espèce de choses. Et ils ne disent rien. Ils n'ont pas une parole. On me dirait encore, mais ils avaient du tact, ils ne pouvaient pas. Mais enfin alors, vous souvenez-vous que si vous avez une détresse devant les yeux, criez de tout votre être au Seigneur. Il est dit qu'il a la langue des savants et qu'il peut par une parole soutenir ce qui est là. Et ne devenez pas des consolateurs fâcheux. Ne soyez pas de ceux qui, comme j'ai raconté peut-être déjà une fois ici, quand j'étais malade à 18 ans, il y avait un homme dont on avait coupé les deux jambes, il avait 68 ans. Et puis, il y a un pasteur qui est venu me voir, moi. Et moi, je m'occupais de cet homme qui était entré athée et révolté. Puis j'essayais de l'aider comme je pouvais avant ma grande opération. Puis, il m'avait une grande reconnaissance. Et il disait, c'était un Italien, à l'infirmière qui venait le matin à 6 heures, parce qu'il m'avait vu lire ma Bible le matin. Et il me disait, tu peux pas me lire ce que tu lis? C'est lui qui l'a demandé. Je n'ai pas imposé ma lecture. Puis je lui lisais un petit passage. Puis il disait petit à petit à l'ingénieur, vous savez, Sœur Charlotte, le Gaston, il m'a béni ce matin. C'était son langage. Et petit à petit, bien voilà, il s'est rapproché du Seigneur. Mais le malheur, moi j'ai cru, bon, voyant le travail de Dieu dans son cœur, de dire à ce pasteur, vous pourriez peut-être lui dire un petit mot. Puis évidemment, ce père Tito, là, il dit, mais le pasteur lui dit, alors, c'est difficile, hein, vous souffrez. Ben, quand on arrive avec deux jambes à l'hôpital, puis qu'on repart sans jambes, c'est pas drôle. Eh bien, réjouissez-vous, mon frère, vous aurez bientôt les jambes du ciel. J'étais furieux. C'est là, chanter des chansons à un cœur affligé. Vous avez cité aussi un aumônier à Lausanne, dans un hôpital où, de Lausanne, qui passait d'une chambre à l'autre, puis il avait une parole pour tous. Une femme, on lui avait fait une dérivation intestinale. Vous souffrez, madame? Et elle répond, ça se voit. Eh bien, souvenez-vous que celui que le Seigneur aime, il le discipline. Et elle de répondre, eh bien, je voudrais qu'il vous aime un peu plus et qu'il m'aime un peu moins. Ping-pong, hein, c'est pas volé, ça. Alors, demandons au Seigneur de ne pas être de ces consolateurs fâcheux et de ne pas chanter des chansons à un cœur affligé. Et mettons-nous dans la peau de celui qui souffre. Et alors, là, vous sentez votre impuissance, que vous ne pouvez rien. Et alors, vous dites au Seigneur, si tu veux, emploie ma langue, emploie mon cœur, mais mets-y quelque chose qui vienne de toi. Alors ce soir, nous allons voir la réaction. On a entendu Job, dans sa complainte, maudire le jour de sa naissance, exprimer le désir de ne pas être né, exprimer le désir de mourir. Que va répondre un de ses amis, le plus vieux, Eliphaz. Ce seront les deux chapitres que je vous demande de lire. Est-ce que vous aurez un peu de temps pour le lire pour ce soir? Vous aurez plus de facilité à comprendre. Et puis maintenant, notez les questions qui restent pour vous sur ce chapitre. Mais je ne veux pas aller plus loin parce que l'heure est venue. Ça vous intéresse ou ça vous barbe? Dieu notre Père, nous voulons te demander que ce que tu as à nous dire dans ce camp, tu nous le communiques et que nous puissions recevoir tes paroles et qu'elles soient esprit et vie en nous et nous transforment à ton image et à ta ressemblance pour le bien de nos frères, pour le bien de tous les hommes que nous côtoyons et qui sont sans espérance et sans Dieu dans le monde. Pour la gloire du Père, au nom du Fils, et par la puissance du Saint-Esprit. Amen.